tête des morts. Il y a quelques années, tous les journaux de Vienne parlaient de l'enterrement d'un crâne, le crâne de Kara Mustafa, rien de moins. Le grand vizir qui avait dirigé le second siège de Vienne en 1683 et perdu la bataille avait été étranglé, sur ordre du sultan, à Belgrade, où il s'était replié. Je me revois raconter à Sarah incrédule qu'après le cordon de soie, Kara Mustafa fut décapité post-mortem, que la peau de son visage fut ensuite ôtée pour être envoyée à Istanbul comme preuve de sa mort, et son crâne enterré, avec le reste de ses ossements, on suppose, à Belgrade, où les Habsbourgeois le découvrirent dans la tombe correspondante, 5 ans plus tard, en occupant la ville. Le crâne de Kara Mustafa, Mustafa le Noir, fut offert à je ne sais quel prélat viennois, qui l'offrit lui-même à l'arsenal, puis au musée de la ville, où il fut exposé des années durant, jusqu'à ce qu'un conservateur scrupuleux pensât que cette vieillerie morbide n'avait plus sa place parmi les illustres collections d'histoire de Vienne, et décida de s'en défaire. Le crâne de Kara Mustafa, dont la tente était plantée à 2 pas d'ici, à quelques centaines de mètres du glacis vers le Danube, ne pouvant aller à la poubelle, on lui trouva une sépulture dans une niche anonyme. Est-ce que cette relique de Turc avait quelque chose à voir avec la mode des têtes de Turc moustachues qui ornent les frontons de notre belle ville? Voilà une question pour Sarah. Je suis sûr qu'elle est incollable sur la décapitation, les Turcs, leurs têtes, les otages et même le poignard du bourreau. Là-bas, au Sarawak, elle doit entendre les mêmes nouvelles que nous, le même journal parlé. Ou peut-être pas, qui sait. Au Sarawak, il est peut-être question des dernières décisions du sultan de Brunei et pas du tout des assassins masqués de l'islam de farce macabre au drapeau noir. C'est une histoire si européenne, finalement. Des victimes européennes, des bourreaux à l'accent londonien. Un islam radical nouveau et violent, né en Europe et aux États-Unis, des bombes occidentales. Et les seules victimes qui comptent sont en fin de compte des Européens. Pauvres Syriens. Leur destin intéresse bien peu nos médias, en réalité. Le terrifiant nationalisme des cadavres. Aouda Abou Taïa, le fier guerrier de Laurence et Musil, se battrait sans doute aujourd'hui avec l'État islamique, nouveau djihad mondial après bien d'autres. Qui a eu l'idée le premier? Napoléon en Égypte ou Max von Oppenheim en 1914? Max von Oppenheim, l'archéologue de Cologne, est déjà âgé au moment du déclenchement des hostilités. Il a déjà découvert Tel Alaf. Comme beaucoup d'orientalistes et d'arabisants de l'époque, il rejoint la Nachrichtenstelle für Orient, office berlinois censé regrouper les renseignements d'intérêt militaire en provenance de l'Est. Oppenheim est un habitué des cercles du pouvoir. C'est lui qui a convaincu Guillaume II d'effectuer son voyage officiel en Orient et le pèlerinage de Jérusalem. Il croit au pouvoir du panislamisme, dont il s'est entretenu avec Abdulhamid, le sultan rouge, soi-même. 100 ans après, les orientalistes allemands étaient plus au fait des réalités orientales que les arabisants de Bonaparte, qui tentèrent les premiers, sans grand succès, de faire passer le petit Corse pour le libérateur des Arabes du joug turc. La première expédition coloniale européenne au Proche-Orient fut un beau fiasco militaire. Napoléon Bonaparte ne connut pas le succès escompté comme sauveur de l'islam et concéda une très cuisante défaite aux perfides britanniques. Décimés par la peste, la vermine et les boulets anglais, les derniers lambeaux de la glorieuse armée de Valmy durent être abandonnés sur place. Les seules disciplines bénéficiant d'un tant soit peu de l'aventure étant par ordre d'importance la médecine militaire, l'égyptologie et la linguistique sémitique. Est-ce que les Allemands et les Autrichiens ont pensé à Napoléon en lançant leur appel au djihad global en 1914? L'idée, soumise par Oppenheim,